Également, Gédéon, je ne sais pas si certains connaissent l'œuvre des Gédéons, l'œuvre du Seigneur à travers les Gédéons. Et je voulais simplement en profiter pour expliquer ce dont il s'agit. Il s'agit d'une association internationale qui s'appelle l'Association internationale des Gédéons. Et ce sont des personnes qui ont des responsabilités de gestion, notamment d'équipe, qui peuvent distribuer la parole sous la forme de petites, peut-être que vous avez déjà vu ce format de Nouveau Testament et psaumes. Hein, ce sont les psaumes et les Nouveaux Testaments que nous distribuons notamment aux lycéens, collégiens et aux universitaires, enfin dans les universités, notamment les bleus comme ça. Les blancs sont pour les cabinets médicaux ou les salons médicaux, les hôpitaux éventuellement. Et normalement, c'est l'œuvre des équipières, donc qui s'appellent les auxiliaires, les femmes qui ont ce ministère-là. Et nous avons également des modèles. Qui n'est pas exactement celui-ci, qui sont des modèles trilingues que nous donnons aux hôtels, que nous essayons de placer dans les hôtels, peut-être certains d'entre vous. Comme nous, d'ailleurs, nous avons eu cette expérience lorsque nous sommes allés en Grèce. Nous avons vu ces Nouveaux Testaments et Psaumes trilingues en Grèce, distribués par les Gédéons, qui font cela dans 180 pays. Quelques chiffres. Très rapidement, pour dire ce que les Gédéons font en France, ou du moins ce que le Seigneur fait à travers les 850 membres dans 52 groupes en France, nous avons distribué 7 millions de Nouveaux Testaments depuis 63, lors de la distribution en France. Dans le monde, c'est 1,7 million de Bibles ou Nouveaux Testaments dans 90 langues. 80 millions d'exemplaires chaque année dans 193 pays. Tout à l'heure, j'ai dit 180, mais il y en a plus depuis. 193 pays. Et à travers le monde, 290 000 membres. Vous aurez plus de renseignements, si vous voulez, sur le www.gedeon.org. Et ce qui nous unit surtout, c'est notre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et la Bible comme parole de Dieu. Et nous sommes de confessions différentes, donc il peut y avoir des chrétiens de tous bords, mais nous unissons autour d'Ésaïe 55, 11, qui dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. » Et nous avons de nombreux témoignages qui nous montrent, à travers le monde même, un témoignage rapide d'un Russe qui cherchait à savoir comment distribuer la parole de Dieu, puisque c'était interdit lors de l'Union soviétique, c'était vraiment très très surveillé, c'était absolument interdit. Donc, comme c'est un format très petit, ils le mettaient dans leur portefeuille, ils se promenaient à Moscou, dans leur portefeuille, ayant ça dans le portefeuille, et en laissant les pickpockets voler leur portefeuille. Et un jour, un chrétien qui s'était converti de cette façon est venu chercher ceux qui étaient clandestins, hein, qui se cachaient, il les a trouvés et leur a dit « Écoutez, je dois vous rendre cela parce que le Seigneur a fait une grande chose dans ma vie, il m'a permis de le rencontrer, de l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel par ce témoignage. » Donc le Seigneur peut faire des choses à travers même des façons un peu bizarres, mais on peut avoir de diverses façons de faire selon le contexte. Récemment, nous avons distribué à Bondouf, là où j'habite, et au lycée de Bondouf, 200 Nouveaux Testaments. Il y a 3 ans, nous avions fait la même chose, et c'était vraiment très houleux. Il y avait le conseil d'éducation qui était sorti, qui nous avait dit que c'est interdit de distribuer sur la voie publique. Alors on a un petit papier qui montre la loi, qui nous autorise à le faire à une certaine distance. Et il y avait même le responsable des élèves du je sais plus quelle association d'élèves, et qui lui aussi était très très vindicatif. Et puis il y avait les chrétiennes qui étaient là et qui nous défendaient, peut-être un peu trop d'une manière un peu trop virulente d'ailleurs. On les a un peu calmées en disant ouh là, le Seigneur de toute façon peut agir. Et ce qui s'était passé, c'est que tous les enfants avaient ouvert le petit Nouveau Testament qu'ils avaient reçu et discutaient dans le hall d'entrée et ne voulaient pas rentrer en cours. Alors là, on a dit OK, on s'en va, mais au moins on avait quand même distribué la parole et ça avait vraiment eu de l'effet. Bien, comment faire pour soutenir cette œuvre du Seigneur à travers les Gédéons? Eh bien, prier, premièrement, c'est une possibilité. Voir avec le pasteur si c'est possible éventuellement d'être soi-même Gédéon, si nous avons sur le plan professionnel une responsabilité notamment d'équipe. Et puis, bien sûr, financièrement, ça coûte 1,50 et quand on en distribue 200, bah, il faut 1,50 de nos propres poches, puisque c'est chaque équipe de Gédéon qui fournit ses propres écritures pour les distribuer. Alors, bien sûr, on réunit ces sommes et on les envoie aux États-Unis pour qu'ils publient les ouvrages et qu'ils nous les renvoient autant qu'on en ait besoin. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne se suffit pas en France. Il faut que les États-Unis nous aident à financer toutes les distributions possibles en France et dans probablement beaucoup d'autres pays. Je vais m'arrêter là concernant cette présentation des Gédéons pour ensuite parler du message du Seigneur. Prions. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante, ta parole nous montre la voie sur le chemin de la sanctification. Merci parce que cela est possible, parce que tu nous as justifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Et ça, c'est un cadeau merveilleux pour lequel nous ne pouvons que être reconnaissants durant toute notre vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore dans ce corps de Christ qui est l'église de Vigneux. Et nous te prions pour toutes les intentions de prière qui ont été évoquées tout à l'heure, afin que tu les exauces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comment puis-je surmonter le péché dans ma vie chrétienne? La Bible parle des ressources suivantes afin de surmonter notre culpabilité. Il y a quatre axes qui vont nous permettre de voir ce que la Bible nous dit sur ce sujet. Le premier, c'est le fait que l'Esprit de Dieu soit là. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez si vous êtes conduit par l'esprit. Vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Par contre, les autres versets nous parlent de ce que l'Esprit nous incite à faire. Si nous devons nous éloigner des œuvres de la chair, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et si la loi ne sont pas contre ces choses, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alors, on pourrait s'arrêter là et méditer pendant toute l'année et même toute notre vie de chrétien. Nous avons à nous débarrasser de ce qui appartenait au vieil homme, qui appartenait à notre ancienne nature, pour aller laisser le Saint-Esprit nous transformer et nous faire nous épanouir dans cet amour, cette joie et toutes les autres choses qui sont les fruits de l'esprit. Éphésiens 5, 18 nous dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, ce que vous avez fait tout à l'heure en vous soutenant dans la prière les uns les autres. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et là, il est évident que tous les saints, ce ne sont pas des personnes toutes particulières, mais vous êtes, si vous êtes à Jésus-Christ, des saints. Pourquoi ? Parce que vous êtes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Il a pris sur lui la condamnation et il nous donne d'être justifiés devant le Père, le juste juge qui jugera tout homme à la fin de sa vie. Alors si nous sommes justifiés devant la loi de Dieu, nous avons quand même à persévérer sur le chemin de la sanctification et laisser le Saint-Esprit justement nous transformer. Mais nous avons aussi à prier les uns pour les autres, par l'Esprit. C'est lui qui anime notre prière. Colossiens 3,16 nous dit également que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Là encore, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire cette exhortation, cette instruction les uns vis-à-vis des autres. Et le fait que l'Écriture, les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels nous permettent de chanter à Dieu sous l'inspiration de la grâce, notre reconnaissance et nos prières. Alors on l'a déjà abordé d'une certaine façon, on a dit qu'il fallait le Saint-Esprit, laisser agir le Saint-Esprit en nous, puisque nous sommes une nouvelle créature, nous sommes habités par l'Esprit-Saint. Et d'ailleurs, un petit témoignage, lorsque je me suis converti, on m'avait attiré à une réunion d'étudiants dans le milieu catholique, et le prêtre qui était le recteur de la basilique de Montmartre, puisque j'habitais Paris à Montmartre, parlait aux étudiants, et puis il a dit quelque chose qui parlait de Jésus-Christ. Et là, alors que j'avais lu la Bible, je devais avoir 14-15 ans, j'avais lu la Bible à l'âge de 12 ans, comme une petite religion personnelle, parce que depuis l'âge de 3-4 ans, je priais régulièrement, en me disant, bon, c'est des enfantillages, quand je serai plus grand, j'arrêterai de prier. Et puis plus j'avançais en âge, plus je me disais que c'était très important de garder cette relation avec Dieu. Mais alors Dieu, personne ne voulait m'instruire sur Dieu, je ne savais pas qui c'était. Et j'avais lu donc à 12 ans la Bible en entier, sans rien comprendre, parce que personne ne me l'expliquait. Et en plus, il fallait que je lise un chapitre chaque jour. Et si je butais sur un mot, ma petite religion me disait, bah, tu reprends. C'était une sorte d'offrande à Dieu. Donc j'avais rien compris. Mais à partir du moment où ce prêtre avait parlé de Jésus-Christ et le Saint-Esprit était vraiment entré en moi, a fait tomber les écailles de mes yeux, comme pour Paul sur le chemin de Damas, et j'ai enfin compris l'essentiel, le fait que Jésus-Christ, fils de Dieu, fait homme, est mort pour moi et m'a donné donc cette possibilité d'être enfant de Dieu à nouveau, réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est vraiment un changement miraculeux qui vous est arrivé d'une manière spontanée, comme ça m'est arrivé, ou d'une manière progressive, et vous ne pouvez pas mettre une date, un événement précis sur cette conversion, mais il s'est passé quelque chose dans votre cœur, dans votre âme, et vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous avez prononcé, comme les parents de notre frère, le « oui, je crois en Jésus-Christ ». Et ça, il y a les anges du ciel qui se réjouissent lorsqu'une personne donne son âme, accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors la Bible nous l'enseigne. La Bible, justement, la parole de Dieu, nous montre ici en 2 Timothée 3, 16-17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Vous savez que le Seigneur prépare des bonnes œuvres chaque jour afin que nous les accomplissions. Alors soyons dans cette disposition d'esprit chaque jour d'accomplir la parole de Dieu dans les bonnes œuvres qu'il prépare pour nous. Parfois on les loupe et rétrospectivement on se dit « Ah tiens, là il y avait quelque chose à faire, là, je suis passé à côté, ça fait rien, Il y aura encore une autre occasion de le faire. Mais préparons-nous. C'est pour ça que la prière et la lecture de la parole chaque jour avant de commencer sa journée est vraiment importante. Hébreux 4, 12, 16 nous dit autre chose sur la parole de Dieu. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu nous connaît parfaitement. Et la parole de Dieu est capable de discerner le cœur de l'homme. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà, la parole de Dieu nous donne tout l'enseignement nécessaire pour que nous connaissions Dieu, que nous connaissions Jésus-Christ, que nous sachions quelle est notre relation avec notre Dieu. Il nous écoute. Le psaume 119, versets 9 à 14, nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Ça nous montre que par la loi, on ne peut pas se rendre pur. Par les bonnes œuvres, on ne peut pas se rendre pur. Seule la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous le permet. En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Alors le psalmiste n'a pas encore la présence de Jésus-Christ, mais il a la foi en ce Dieu qui lui révèle sa manière de se comporter par la parole de Dieu. Éphésiens 6, 12 à 18, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, comme les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons vu que nous avons besoin de l'esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Et là, on nous dit que l'esprit, c'est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints que nous avons vus déjà tout à l'heure. Troisième point, après le fait d'accueillir le Saint-Esprit, de le laisser travailler en nous, de ne pas l'attrister, de lire régulièrement la parole de Dieu, de la connaître, la prière. Et tout à l'heure, on a eu cet exemple de prière de corps de Christ, les uns pour les autres, qui est la vraie vie de ce corps de Christ, de l'Église. Acte 3, 1 nous dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils priaient, dès le départ, dès l'Église primitive. » Acte 4, 31 « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Chapitre 6, verset 4 « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » C'est lorsque ils sont obligés de nommer des diacres parce qu'il y a trop de travail. Il faut prier, il faut veiller à l'enseignement des disciples, mais aussi s'occuper matériellement des choses. Donc il y a cette division du travail en quelque sorte. Verset 3 du chapitre 13. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est lors des voyages apostoliques. Revenons à ce verset essentiel. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Jean 5, au verset 14-15, nous dit: Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Cette assurance de la réponse du Seigneur à notre prière nous montre que, bien entendu, il ne nous répondra pas forcément exactement selon nos désirs, parce que peut-être que nos désirs ne sont pas bons pour nous ou pour ceux qui nous entourent, mais il nous donnera une réponse, sa réponse, en temps et en heure aussi. Ne soyons pas impatients d'avoir la réponse du Seigneur à notre prière. Parfois, il faut des années avant que cette prière nous soit retournée avec une réponse favorable ou non. En tout cas, c'est le Seigneur qui nous montre, à travers la réponse à notre prière, ce qu'il veut faire dans nos vies. Faisons-lui confiance. Et quatrième point, ce corps de Christ dont nous avons parlé tout à l'heure, l'Église. L'Église, c'est là que nous vivons notre foi en communauté, en corps de Christ, les uns avec les autres. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Matthieu 18, 20. On peut prier seul, on peut prier dans notre coin, mais on ne peut pas vivre notre vie chrétienne d'une manière isolée. On a besoin les uns les autres pour s'encourager, s'exhorter les uns les autres, comme nous l'avons vu tout à l'heure, enseigner aussi la parole de Dieu, permettre aux uns et aux autres de comprendre et d'être sur la même longueur d'onde, unis par le même esprit, pour prier ensemble, agir ensemble. Ensuite, Jacques 5, 16, se soutenir les uns les autres en n'abandonnant pas notre assemblée, en y étant actif. Ça, j'ai rajouté ça entre parenthèses, c'est le contexte de se soutenir les uns les autres. Jacques nous invite à ne pas abandonner notre assemblée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller visiter d'autres églises, comme je le fais ce matin, mais ça veut dire vraiment être dans le corps de Christ. Et nous avons cette chance de pouvoir, lorsque nous voyageons, lorsque nous sommes en vacances, de rejoindre une autre communauté chrétienne et de ressentir la même famille. Nous sommes unis par un même esprit, Jésus-Christ. Confesser nos péchés les uns aux autres, et j'ai rajouté avec sagesse et discernement, il ne s'agit pas d'étaler sa vie et de choquer peut-être des personnes qui seraient faibles, qui seraient donc une occasion de chute pour certains, mais trouver peut-être un alter ego dans la foi pour partager notre vie spirituelle, nos hauts et nos bas, et faire en sorte que nous puissions être confortés, aidés. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un vis-à-vis auquel vous pouvez être redevable dans le Seigneur, vous pouvez progresser beaucoup mieux. Il est facile peut-être de dire au Seigneur, bah, pardonne-moi ceci, cela, puis peut-être recommencer les mêmes choses, les mêmes erreurs. Mais si vous avez un face-à-face régulier avec un vis-à-vis et que honnêtement vous priez avec cette personne et que le Saint-Esprit vous montre, attends, il faut peut-être confesser ça. Mais on n'est pas obligé, bien sûr, de se confesser les uns aux autres nos péchés. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une aide spirituelle qui nous permet de grandir dans la foi. Personnellement, quand j'habitais justement Vigneux, il y a deux décennies maintenant, bientôt, lorsque je faisais mes études, justement avec Jean-Claude Rollier, pendant un certain temps, et même lorsque le pasteur Paul Davis, ici, au début de cette église, ici à Vigneux, nous avions des réunions de travail ou autres, et il n'était pas rare que nous arrêtions juste devant la porte de chez moi pour prier. Et parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ma femme se demandait, il n'y avait pas de portable à l'époque. Et il suffisait qu'elle regarde par la fenêtre, et oui, on était là, en train de prier, sous le lampadaire. Ça, c'est vraiment très important d'avoir un vis-à-vis pour prier les uns avec les autres et peut-être confesser nos péchés, être redevable, aller peut-être plus loin dans le face-à-face, avec le Saint-Esprit, mais avec un frère ou une sœur en qui on peut avoir confiance. Et un extrait de l'Ecclésiaste, chapitre 4, 11-12, nous montre la solidité d'une corde à trois fils qui ne se rompt pas facilement. Il y a la force et le conseil de plusieurs. Aussi, ça c'est dans les Proverbes, il y a beaucoup de passages où on nous montre que le fait d'être plusieurs, d'avoir les conseils de plusieurs, donne une force spirituelle. Alors, je voulais vous encourager ce matin à vous concentrer sur ces quatre points, ces quatre colonnes qui nous permettent d'être forts en Christ et d'avancer sur le chemin de la sanctification. Nous avons, si nous sommes réellement au Seigneur, été justifiés auprès du trône du grand juge, notre juge, juste juge, qui est Dieu. Nous n'aurons pas de culpabilité devant lui, non pas par nos propres mérites, mais parce que nous avons foi en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Mais nous avons un chemin de sanctification, des progrès à faire. Et le Seigneur nous assure que nous marcherons de progrès en progrès jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors quand on regarde où on en est, tous, chacun à notre niveau, et la stature parfaite de Jésus-Christ, ça semble absolument inatteignable, mais Dieu va faire ça en nous si nous le faisons confiance. Donc, faisons confiance au Saint-Esprit qui est en nous depuis notre conversion, depuis que nous avons dit oui, le Saint-Esprit est entré en nous, nous a éclairés et nous permet de discerner dans sa parole ce que nous avons à apprendre de lui. Et nous avons sans cesse à apprendre, même si nous lisons la parole de Dieu plusieurs fois dans notre vie. Hein, si vous faites ça régulièrement en prenant la peine de lire chaque année la parole de Dieu. Il y a un pasteur qui faisait une lecture double. Il lisait la parole de Dieu une fois toute l'année, donc une fois complète, mais il se donnait 5 ans pour l'étudier aussi, c'est-à-dire s'arrêter, réfléchir, écrire sur chacun des passages qu'il lisait. Donc il lisait doublement la parole de Dieu. Et chacun peut faire cet effort de lire même en 2 ans ou 3 ans la parole de Dieu, mais au moins l'avoir lu en entier, du début à la fin, pour voir ce que le Seigneur a à nous dire. Et puis la prière, et même la prière en église, 2 ou 3 ou plus, est essentielle pour que le corps de Christ soit vivant. Et je loue le Seigneur de voir que vraiment il a fait son œuvre ici à Vigneux. Et il continue à le faire. Et je prie pour que il continue à le faire encore. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole nous montre la voie. Elle atteste toutes ces choses que tu nous as laissées comme enseignement. Merci parce que c'est la vérité. Elle vient de toi. Merci parce que le Saint-Esprit nous permet de la comprendre. Il l'a encodée à travers l'écriture de divers écrivains. Et il nous la décode lorsque nous l'écoutons. Seigneur, aide-nous aussi à prier ensemble, à être vraiment des hommes et des femmes de prière, parce que tu nous écoutes et tu nous réponds. Et Seigneur, merci parce que cette prière en Église, cette solidarité dans la foi, nous permet de nous aider les uns les autres et de grandir les uns avec les autres. Et nous voulons, comme notre frère nous l'a présenté tout à l'heure, prier pour tous ceux qui n'ont pas cette liberté de prier en paix. Donne-leur la force, Seigneur, de ne pas se désunir, de trouver un moyen d'être unis et de vraiment être en Église pour partager cette parole, partager la prière et s'exhorter les uns les autres et grandir dans la foi. Merci, Seigneur, de les accompagner, de nous accompagner tous et de nous permettre de vraiment marcher de progrès en progrès jusqu'à cette stature parfaite de Jésus-Christ. Non pas que nous le pouvons par nos propres forces, mais aide-nous à te laisser agir dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.